histoire de droite, gauche, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, fini.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre nouveau rendez-vous. Vous le savez, c'est le magazine de la bonne soirée. À deux vitesses, l'actualité et la musique live en première partie. Les archives extraordinaires de France Inter en deuxième heure. L'actu ce soir, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Ils en sont où? On nous a promis un monde nouveau, débarrassé du clivage droite-gauche. Et pourtant, il y a de la résistance. Ça pourrait se reformer, mais dans quelle configuration? Et qui pour porter à droite et qui pour porter à gauche? J'imagine que vous avez des titres un peu moins vulgaire. Bah, c'est conseiller.
Écoutez, Laurent, on est quand même sur France Inter, quoi. Faut pas exagérer, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas chez Hanouna. Enfin bon. Écoutez, moi j'ai quelques titres à vous proposer alternatifs, bien sûr. D'abord un titre très sérieux, alternatif. Ouais. Un peu comme les vérités alternatives.
Oui, oui,
droite, gauche,
culture.
Est-ce que c'est du passé? C'est ça, c'est banal.
C'est minable, hein.
Ensuite, j'avais un truc un peu plus militaire. Gauche, droite, tromper les rangs. Point d'interrogation. Alors après, j'ai
tromper
pensé à
tromper les rangs. Ah, c'est pas mal. Ça.
Oui. Attends, j'ai pas fini. Ensuite, j'avais direct du gauche, soigne ta droite. Qui était un peu plus sportif comme
Oui,
et puis enfin j'ai pensé à demain tous gauchers contrariés.
Non, ça c'était
l'interrogation.
Ah, ok, très bien. La musique ne fait pas de politique, j'imagine, Marion Guilbeault, parce qu'elle est au-dessus de tout cela.
Oh, quoique, il pourrait y avoir débat là-dessus aussi. Non, là on va juste rebrancher les guitares avec le rock qui pique du groupe Last Train.
Et puis ce sera le énervé la suite, France Inter, plus de musique et de Black Session. L'émission live de Bernard Lenoir réveille nos nuits cette semaine. Dernier épisode ce soir, Paul Weller, le parrain du
génial.
Rock. Le parrain, non pas du rock, de la Britpop,
et
le
des
pape
modes.
Du rock, et surtout, bien sûr, le roi des modes, explose la Black Session du 16 octobre 1992. Session, j'ai dit. Allez, le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Petit rituel de présentation, je vais vous présenter vos invités, Christophe Bourcelli.
Merci.
C'est les miens aussi.
Bah, je vous surprise, je vous les offre.
Barbara Lefebvre, vous êtes enseignante et essayiste.
Bonjour.
Bonjour. Claude Pasternak, vous êtes spécialiste de la communication, créateur du baromètre Pasternak IFOP et fondateur de La Matrice, qui est une agence dédiée à l'opinion. Et vous êtes aussi fondateur de l'important.fr et par ailleurs membre de La République En Marche. Ça vous va comme présentation?
C'est un bon
exhaustif.
Résumé.
Ah oui, c'est exhaustif. Émilie Zappelski, vous êtes conseil en communication, fondatrice d'Émilie Conseil. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard. Bonsoir à vous. Christophe, c'est à vous.
Ah, c'est déjà à moi.
Trompez
bah,
l'air. Oui.
Bah, écoutez, pourquoi pas.
Éditorial alors, de Christophe Conseil.
Oui, le voilà, c'est bon. Alors, sommes-nous, écoutez bien, parce que c'est dense aujourd'hui, sommes-nous culturellement, Laurent, en train d'entrer dans le 21e siècle? Alors, je me le demande, Laurent, parce qu'au fond, écoutez-moi bien, on est entré culturellement dans le 20e siècle aux alentours de 1920. Un siècle auparavant, oui, avec les années folles, l'essor du surréalisme, la création du Parti communiste, l'essor du cinéma, du jazz, et j'en passe. Vivons-nous aujourd'hui une semblable phase de transition? Le fait est, Laurent, que la droite républicaine s'étiole et se morcelle, tandis que le PS se fragmente et que le PC poursuit son écroulement. Alors tout change, les sigles d'hier laissent progressivement la place à des formations nouvelles, la République En Marche, le Rassemblement National, la France Insoumise, et le clivage droite-gauche dans tout ça, me direz-vous. Connaissez le vieux refrain. À ma gauche, le camp du progrès et du changement. À ma droite, le camp de la conservation des valeurs. Faut bien dire que l'idéal, Laurent, c'est un petit peu un mélange des deux, mais justement, droite et gauche en 2019, ça existe ou c'est un vieux clivage obsolète, ringard, complètement dépassé? Droite-gauche, c'est le monde ancien et le monde nouveau, il ressemble à quoi? Claude Pasternak, on va commencer, bien sûr. Donc, on assiste actuellement à la mise sur orbite d'un potentiel rassembleur de la gauche qui est Bernard Cazeneuve. Vous y croyez, vous, au potentiel de Bernard Cazeneuve?
Écoutez, parler du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Alors, Bernard Cazeneuve, c'est un grand ministre de l'Intérieur, salué. Simplement, quel est le positionnement du Parti Socialiste? Puisqu'un parti doit avoir un positionnement, où il se situe. Alors, apparemment, il se situe à gauche. La gauche a été pendant des années un représentant de la classe ouvrière. Alors, même si la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle était, hein, puisque juste à titre de comparaison, à la Libération, il y avait 30% de syndiqués dans ce pays. Aujourd'hui, on est à moins de 7%. Et si on prend simplement le privé, la CGT pèse autour de 1% des salariés du privé. Donc, on a une gauche qui est complètement morcelée, recomposée. Il est paradoxal que cette gauche, qui a besoin de retrouver des racines, se serve d'un grand bourgeois. La forme et le fond qui remontent à la surface, disait Victor Hugo. M. Cazeneuve donne les signes de la bourgeoisie, et c'est quand même un peu paradoxal de vouloir se recomposer à gauche par les signes de la bourgeoisie.
Il avait été l'invité quand même de la fête de la Rose, et dans cette fête de la Rose, il y avait le Parti communiste, le Parti radical de gauche, Génération, Nouvelle Donne, Écologie Europe Les Verts, et Place Publique. Donc quand même, il y avait une tentation...
Et puis il y avait Laurent, il y avait les rituels de la gauche.
On a chanté
Bernard Chao, on a chanté L'Importance et la Rose. Il y avait Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault, qui était présent, PDG de gauche.
Est-ce que ce sont des bons signes pour une reconfiguration de la gauche?
Je crois que les symboles ne suffisent pas, ou en tout cas ils ne suffisent plus. On a vu l'expérience du quinquennat de François Hollande, dans lequel était intégré Bernard Cazeneuve. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il puisse dire « je suis qualifié aujourd'hui pour incarner ce qu'est la gauche ». Au contraire, aujourd'hui, tout à l'heure on parlera du clivage droite-gauche, je comprends que pour une nouvelle génération, notamment je pense à la génération que j'ai rencontrée au moment des places publiques, où il y avait les prises de places publiques, les nuits debout, où les jeunes disaient « non, je ne veux pas m'identifier à gauche, parce que si c'est ça être de gauche, si c'est ce gouvernement que nous avons en face de nous qui se dit de gauche, si c'est ça être de gauche, je ne peux pas me dire de gauche ». Donc aujourd'hui, je ne crois pas que ces personnes-là que l'on cite beaucoup, qui pourrait reprendre le Parti Socialiste, dont effectivement Claude Posternak a raison, on ne sait pas exactement où il se situe, il cherche encore aujourd'hui une ligne, une colonne vertébrale politique, on voit qu'encore beaucoup de monde au sein du PS est attiré par La République En Marche, par ce qu'on appelle la Macronie. Donc je pense qu'il faut d'abord effectivement que le logiciel du Parti Socialiste se réinvente, c'est vrai pour à peu près toutes les formations de gauche, je crois d'ailleurs, hein, il faut que les idées reviennent et remettre les idées au cœur des formations politiques, ce qui a totalement été délaissé, hein, les intellectuels ont disparu des formations politiques, ils ont été externalisés. Donc je pense qu'aujourd'hui, une personnalité qui est très respectable comme Bernard Cazeneuve n'est pas qualifiée pour incarner la gauche de demain.
Vous êtes proche des idées de Julien Drey qui déclarait « Cazeneuve semble vouloir afficher des ambitions nouvelles, c'est son droit, mais on ne peut pas recommencer les mêmes erreurs avec un sauveur suprême sans projet et sans alliance. » Émilie Zapalski.
Ben oui, je pense qu'il met vraiment la charrue avant les bœufs, puisqu'en effet, moi j'ai l'impression que le Parti Socialiste a un peu perdu son âme, en tout cas son âme de gauche-gauche, au moment de la présidence de François Hollande, et ne l'a toujours pas récupéré, ou en tout cas dans les signaux extérieurs. Donc c'est bien les rites, c'est bien de chanter la rose ou quoi, mais quand au fond, on ne sait même plus qui on est, et qu'on a frôlé un petit peu avec, alors pas la droite, mais en tout cas un certain libéralisme, ou un certain centre-gauche qui balance plus vers le centre-droit, c'est compliqué de reprendre la main. Et autre chose, il commence aussi à l'envers, parce que on en est plutôt à des formations politiques, moi je dirais pas des partis politiques,
des
qui sont
ouais.
comme des produits commerciaux. Et là, à l'inverse, on commence avec un leader qui a été très charismatique en tant que ministre de l'Intérieur, ça je suis d'accord, mais qui là, en tant que leader d'un mouvement qui n'est pas très moderne, on reprend les anciens usages de partis socialistes traditionnels qui ne séduisent plus. Donc là, le mouvement, il amorce avec quelque chose qui est déjà un petit peu has-been.
Il s'adresse un peu, on pourrait dire, aux tenants du monde nouveau. Il a dit, par exemple, la façon dont Emmanuel Macron a pris le pouvoir et dont il l'exerce crée un climat qui nous oblige à montrer que la République, c'est autre chose. Donc il s'affirme comme le tenant, justement, de valeurs que Macron aurait oublié, Barbara Lefebvre.
Oui, mais je crois qu'effectivement, le dilemme très important ici, on l'a tous évoqué, c'est la différence entre la question du clivage droite-gauche et la question des partis. Un parti, c'est la cohésion du groupe autour d'une doctrine. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de doctrine à gauche, il n'y a plus de doctrine à droite qui soit incarnée par un parti. Ou plutôt si, à mes yeux, il y en a un, c'est La République En Marche, qui constitue ce grand centre, ce vaste ensemble du centre, que fut un temps on appelait même le ventre, c'est-à-dire effectivement cet espace-là qui nous rappelle un moment historique très particulier qui en fait, alors je vais faire un peu d'histoire, mais ça nous rappelle la Restauration. Parce que l'instauration, véritablement le moment fondateur du grand clivage droite-gauche en France, c'est la Restauration qui fait justement émerger ce groupe central que vont être les constitutionnels et autour desquels va véritablement ensuite se créer ce clivage droite-gauche. Donc le centre a des moments de transition politique, de grands moments d'histoire dans lesquels on sent qu'on est en train de passer à une autre époque. Eh bien le centre joue ce rôle en quelque sorte de moment intermédiaire, de parenthèse. Et de ce point de vue, La République En Marche peut constituer une parenthèse, mais la droite et la gauche perdurent et il faut qu'ils se recyclent effectivement du point de vue doctrinaire, parce que La République En Marche, on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de corps doctrinal, le progressisme n'est pas une doctrine politique, et puisque d'ailleurs la preuve en est, qu'est La République En Marche, sinon rien d'autre que le rassemblement assez hétéroclite de socialistes et de gens venant de l'UMP. Donc on voit bien qu'il y a un problème doctrinal aujourd'hui.
Claude Posternak.
Oui, le mot transition est important. J'ai créé un mouvement citoyen qui a rejoint Emmanuel Macron, qui s'appelle La Transition. c'était pas le produit d'un hasard, c'est que on est dans une phase historique. Alors peut-être je le resituerai de façon un peu plus proche dans la continuation de ce qu'a été la libération. C'est-à-dire que la libération en France, il y a un compromis historique qui est passé entre les représentants de la classe ouvrière et les représentants de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre Maurice Thorez et Charles de Gaulle. Et cet accord fait que la recomposition politique qu'a connue tous les pays en Europe a été singulière en France. C'est-à-dire, ça n'a pas été une recomposition comme dans les pays du nord de l'Europe, en Allemagne, en Suède, avec une recomposition avec un pôle libéral pour la droite et un pôle social-démocrate pour la gauche. Vous avez eu globalement un pôle de social-démocratie d'État, partagé à la fois par les gens de droite et par les gens de gauche, qui font qu'à un moment donné, les études Cevipof nous disent cette année, comme ils nous le disaient l'année dernière, comme ils nous le disaient il y a 2 ans et il y a 3 ans, lorsque vous interrogez les Français, 75% des Français, c'est quand même pas rien, vous disent « je ne vois plus de différence entre la droite et la gauche ». C'est-à-dire qu'on est au bout d'un système, et lorsqu'on est au bout d'un système, il faut une phase de transition. Et dans cette phase de transition, on en a connu une à la libération avec le Conseil national de la résistance, qui s'est alors dans un contexte différent, mais où la société civile s'est mise autour de la table et a proposé à la France un nouveau contrat. Je pense que nous sommes dans la nécessité de proposer aux Français aujourd'hui un nouveau contrat.
Alors je vais rebondir sur ce thème de résistance, parce qu'il semble bien qu'à gauche, on cherche à faire de la résistance. Je vous propose d'écouter un casting nouveau ou presque, avec Bernard Cazeneuve, qui a des accents Annie Girardot, César, vous le verrez dans sa formulation. Oui, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, même s'il n'est plus vraiment l'allié historique aujourd'hui de la gauche, et Olivier Faure.
Je vous l'avoue, vous m'avez manqué profondément.
Bah, la stratégie, c'est clairement le rassemblement.
Et moi, qui n'attends rien, qui ne suis candidat à rien.
Moi, je pense que les Verts, le PS, que dans leur forme actuelle, sont tous appelés à mourir.
L'écologie n'a plus à se positionner par rapport au clivage du siècle passé. C'est aux autres à se positionner par rapport aux grands enjeux de l'écologie.
Moi, je ne sais pas quelle forme prendra ce rassemblement, mais je sais qu'il est impératif, parce que l'effacement, il a déjà eu lieu.
Yannick Jadot qui donc refuse le clivage 20e siècle droite-gauche. Et on entend ici Raphaël Glucksmann, le grand oublié dans ce rassemblement de la gauche au vu de ce qu'il a fait pour les élections européennes, Pierre Jacquemin.
Je ne sais pas si c'est le grand oublié, mais en tout cas, sans doute a-t-il fait une erreur, je pense. L'origine de son initiative qui était justement de voir se rassembler la gauche, l'ensemble des gauches, qu'elles puissent à nouveau discuter ensemble et faire force commune, notamment pour les élections européennes, c'était...
Et surtout d'incarner un nouveau visage, et non pas celui de Bernard Cazeneuve.
Exactement, ouais. L'idée c'était vraiment de laisser place aussi à une nouvelle génération, et une génération qui, des écologistes, des socialistes, des communistes, puissent se rencontrer, discuter, et surtout arriver ensemble aux élections européennes. C'était le pari de Raphaël Glucksmann, il a fait le choix de faire une alliance avec le Parti Socialiste qui a automatiquement anéanti la stratégie qui était la sienne. Donc je pense que c'est une erreur. J'entends encore son discours et sa voix qui porte encore aujourd'hui cette envie de faire ensemble, cette envie de reconstruire la gauche de manière unitaire. Et je pense qu'il a raison à bien des égards, même s'il fait ce qu'on appelle l'addition des soupes de logos, parce qu'on dit qu'il faudrait mettre le PS avec le PC, avec les Verts, que tout ça fasse un parti politique unique. Je pense qu'aujourd'hui c'est une erreur stratégique aussi. Aujourd'hui la gauche est vivante, elle est vivante dans la rue, elle est vivante dans le monde intellectuel, elle est vivante chez les artistes, elle est vivante évidemment dans le monde politique. Effectivement, il faut que tout ce monde-là finisse par converger, finisse par se réunir. Et donc je pense qu'il faut continuer, et je pense qu'une voix comme celle de Raphaël Glucksmann est importante en ce sens, même si son parcours a un peu décrédibilisé aussi.
Mais c'est vrai qu'il est, vous avez tout à fait raison, parce que quand il dit le PS et les Verts sont appelés à mourir, il est en dehors de toute langue de bois, Émilie Zapalski.
Oui, moi je suis d'accord avec Pierre Jacquemin, c'est que la gauche, elle est là, mais elle n'est pas là dans le Parti Socialiste, elle est là à l'extérieur. Elle est là avec des militants, des convictions qui s'expriment aussi dans les manifestations. Demain, il y aura la RATP qui va être en grève. On a déjà les urgences. On a ces convictions-là sociales qui sont dans la société, qui sont en train de manifester, mais qui ne sont plus représentées, ou en tout cas qui ne retrouvent pas la représentation au niveau des votes, au niveau de ce qui est proposé sur les partis politiques. Moi, le reproche que je ferai à Raphaël Glucksmann, c'est d'avoir voulu saisir ce vent-là, ce vent qui vient de la société civile, des militants, mais de le laisser en termes de débutant, c'est-à-dire qu'il s'est montré peu professionnel sur la politique, et je pense que ça, c'est pas possible d'avoir ce positionnement-là, c'est pas crédible. Et à plusieurs reprises, il disait mais moi, je ne fais pas de la politique depuis longtemps, donc je ne sais pas trop.
Il s'est excusé,
et je trouve que c'est très dommage. Et en face, on a qui ? On a quand même un président qui, en 2 ans, s'est fait à la politique. Bon, il a été ministre avant, mais il a pris tout de suite ce costume, il est devenu star. Donc pour le faire, pour saisir ce vent-là, il faut vraiment se professionnaliser à la vitesse grand V, parce que que la politique, elle a accéléré son temps. On en est à l'heure du zapping. C'est vraiment de la politique commerciale, de la politique marketing. On passe d'un parti à l'autre. On va voter une fois chez l'un, une fois chez l'autre. On fait son marché comme chez un fournisseur.
Ah, j'ai adoré.
On fait son marché. C'est jusqu'au bout, hein. Ouais, le slogan est accroché partout dans les têtes.
D'ailleurs, on voit beaucoup mais de marcheurs qui ont arrêté de marcher, hein.
Comme chez un fournisseur de téléphone ou d'énergie. Donc, c'est une vitesse beaucoup plus accélérée.
Mais est-ce qu'on doit vraiment se soumettre à cette mutation-là? Ce n'est pas sûr parce qu'il y a aussi une demande. Ce peuple électeur qui est abandonné, qui effectivement constitue cycle après cycle, élection après élection, ce parti de l'abstention, il n'a pas envie de s'abstenir. Il a envie d'une incarnation politique. Le problème aujourd'hui, effectivement, c'est l'absence d'incarnation politique. On parlait tout à l'heure qu'il manquait au parti des doctrines, mais il leur manque non seulement une doctrine, mais une incarnation.
La dimension commerciale
d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a aussi incarné quelque chose qui, d'ailleurs, d'un point de vue doctrinaire, était assez vide. Aujourd'hui, on a une gauche, on a une droite, même si elle est morcelée, divisée, ce qu'elle a très souvent été dans l'histoire de la République, dans l'histoire de France même, hein, depuis 1789, la droite et la gauche n'ont jamais formé ni une union des gauches, ni une union des droites. Ça a toujours été des univers éclatés, avec des interpénétrations et des divisions très très puissantes, mais à un moment donné, il y avait des incarnations à travers des hommes,
comme Mitterrand,
Blum ou d'autres. À droite, les incarnations ont été plus compliquées, et c'est peut-être aussi ce qui fait la difficulté pour la droite d'avoir ancré aussi dans une forme de magistère moral.
Nicolas Sarkozy a bien incarné la droite.
Si on peut considérer que
c'était plusieurs
que Nicolas
droites
Sarkozy,
qui s'incarnaient.
C'était une forme de droite, oui, c'était une espèce, là aussi, c'était un produit commercial.
À propos de la gauche, moi, je suis très étonné depuis le début de cette émission, personne n'ait parlé de la France insoumise.
Bah, si, justement, vous avez cité les Pierre voix, Jacques-Marc. Quand j'ai écouté évidemment toutes les voix, je me dis, tiens, il manque quelques petites voix.
Ah oui, on fait comme si Mélenchon n'existait pas.
Et surtout, Romain Jadot qui n'a rien à y faire.
Il manque la voix de ceux qu'on entend dans la rue régulièrement, et il manque évidemment la voix des communistes et la voix de la France insoumise qui a restructuré aussi le champ de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, quand il fait 70% des voix de gauche à l'élection présidentielle, il devient le leader de la gauche. C'est lui qui donne le ton à gauche. C'est plus le Parti Socialiste. Là où le Parti Socialiste était hégémonique pendant toutes ces 20-30 dernières années, à gauche en tout cas, là, Jean-Luc Mélenchon reprenait une balle, c'est-à-dire qu'il remettait la gauche radicale au cœur, justement, du projet politique qu'était la gauche. Et aujourd'hui, évidemment, on n'en est plus là. Aujourd'hui, mais Jean-Luc Mélenchon, il a fait plusieurs choix stratégiques qui ont été des mauvais choix. Oui. Je pense qu'il a perdu énormément le soir de l'élection présidentielle, justement en ne faisant pas cet appel à voter pour Emmanuel Macron, pour battre le Front National. Je pense qu'il a perdu notamment chez les socialistes. Mais voilà, il y avait un projet de gauche qui semblait être en capacité de prendre le pouvoir. C'était quand même là, aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence, une des rares fois que la gauche radicale qui fait la démonstration qu'elle existe, qu'il y a une vraie gauche dans ce pays.
Alors on avait quand même assumé ce montage, précisément en ne mettant pas la gauche insoumise, mais en mettant justement Yannick Jadot. Pour quelle raison, d'après vous, on a voulu faire ça ? Claude Pasternak.
De sortir
la France insoumise, mais de mettre Yannick Jadot dans le petit montage sur le rassemblement possible d'une gauche.
On reste sur l'idée que l'écologie n'est que de gauche, c'est ça ?
Voilà. le courant écologiste, dans les années 70, a toujours milité à gauche.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est de la gauche.
Oui, mais si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les Verts qui pèsent, je rappelle par exemple, c'est un chiffre qui a été peu donné en France, mais qui est quand même spectaculaire. Le bastion de la CDU, de la CSU, le courant bavarois de la droite allemande, c'est Munich. Le premier parti aujourd'hui politique en Allemagne à Munich, avec 30% des voix, c'est les Verts. Bon. Et derrière ces Verts, il y a une partie de gens de droite aujourd'hui qui sont représentés. Et d'ailleurs, Denis Comédit a déclaré il y a 48 heures comme quoi il pense que très rapidement, il y aura un accord entre le centre-droit et les Verts en Allemagne. Bon. Donc les Verts, aujourd'hui, sont une bonne recomposition.
Mais c'est vrai que ça a changé.
Ça a changé. Mais pour revenir à France Insoumise, à un moment donné, Mélenchon a incarné justement cette figure de gauche au moment de la présidentielle, parce que dans ce côté sympathique, qui venait arrondir les angles et qui donnait des phrases d'espoir, il a joué son rôle. Simplement, là, on avait la figure, mais après, on a vu la doctrine, et au niveau de la doctrine, ça ne fonctionne pas.
C'était pas très cohérent. Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve quand même face à 30 ans d'échec, et avec un sujet majeur, c'est que d'un côté, vous avez la France molle, la gauche molle, pardon, comme Martine Aubry avait envoyé à François Hollande, et de l'autre côté, vous avez la gauche fort molle, qui est celle de Mélenchon. Entre la gauche molle et la gauche fort molle, qu'est-ce qui existe ? où vous vous recomposez. Donc c'est une difficulté.
Mais Pierre Jacquemin, vous êtes molle ou
vous êtes,
je me reconnais ni dans l'une ni dans l'autre.
Mais la gauche,
vous pouvez avoir raison, c'est que effectivement Jean-Luc Mélenchon incarne la République, la Ve République. Il a été de cette élite qu'il dénonce aujourd'hui. Il fait maintenant le clivage, il n'est plus à droite et gauche, il est entre eux et nous.
51 ans de mandat.
Mais bien sûr, donc c'est aussi ça qui pêche dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et la stratégie populiste qui est la sienne, en niant le clivage droite-gauche aujourd'hui, en le dépassant par ce fameux clivage eux contre nous, l'élite contre le peuple. Je pense que voilà, il est une caricature, il est presque une contradiction de son message. Mais il n'y a pas de gauche formelle au sein de la France insoumise. Vous prenez les militants, vous prenez le discours, il y a un renouvellement de la pensée quand même, et qui me semble être intéressant pour donner le ton à gauche demain.
On va quitter la gauche pour aller du côté de la droite. Défaite de la gauche, eh bien on va décliner le nom. Défait, c'est le titre de Julien Granel.
Comment on fait pour sortir? Comment on fait pour descendre? Ça fait des mois que ça brûle, bientôt y'aura que des cendres. Si c'est ça la finalité, la fin du parcours, quelque chose a glissé. Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre? C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre. Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre, quelque chose doit glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. Les années nous semblent vides, au fond tous on se ressemble. Si on sait s'écouter, c'est qu'on n'a pas su s'entendre. Quand on a dû glisser, pourquoi toujours vouloir fuir ce qu'on pourrait pas comprendre? Si tout tenait à un fil, il suffirait de le tendre. Si on voit plus l'avenir aussi fort qu'on le prétende, quelque chose va glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On ira bien quelque part, se retrouver par hasard. Défait, défait. On ira bien quelque part, se retrouver par hasard. Défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville,
Défait, un titre signé Julien Granel qui sera en concert au MAMA Festival à Paris le 18 octobre prochain.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Quand je vois tant de mes anciens collègues qui s'évertuent à nous dire vive la droite moderne, la droite ancienne, la droite nouvelle, la droite nationale, la droite ceci, la droite cela, je dis mais arrêtez de penser avec les concepts du 20e siècle, au 21e, ils sont plus opérants.
La voix de Bruno Le Maire le 1er septembre dernier pour ouvrir ce plateau droite avec ses concepts qui ne sont plus opérants. Que pensez-vous de cette déclaration, Émilie Zapalski?
Alors moi je trouve très intéressant le positionnement de Bruno Le Maire qui est quand même très identifié droite évidemment, qui a intégré le gouvernement d'Emmanuel Macron et qui est quand même l'un des rares, on va dire, dans ce gouvernement à poser des pierres comme il l'a fait sur la taxe GAFA. Et c'est vraiment et quand on l'entend parler, alors il faut voir si les actes vont aller jusqu'au bout. En tout cas la taxe GAFA c'est fait, on est quand même les premiers Européens européen à avoir lancé ça. On va voir jusqu'où on peut aller, mais on tient le coup, même si tout le monde ne veut pas y aller. Il va falloir voir si son discours s'aligne bien. Moi, je l'ai entendu parler au G7 d'un libéralisme qui crée beaucoup d'inégalités, et voir comment on peut confronter ça. Je crois qu'il a saisi, c'est un peu ce qu'on appelait le gaullisme, hein, finalement, que dans la droite, il peut y avoir des valeurs sociales et d'essayer d'insuffler ça. Je trouve que c'est intéressant, mais on l'entend pas beaucoup, ce personnage, parce que, bah, évidemment, il reste à sa place dans ce gouvernement, ni droite ni gauche, mais je trouve que c'est un discours qui est pas inintéressant.
Barbara Lefebvre, je vous vois sourire.
Oui, parce que l'étiquette de droite, c'est ça qui est toujours très intéressant, c'est qu'en fait, la droite elle-même ne s'assume jamais comme telle. Elle ne se dénomme jamais la droite, même quand on regarde bien dans son histoire. En réalité, c'est toujours la gauche, je veux dire, historiquement, dans le long terme historique, c'est toujours la gauche qui la nomme. C'est-à-dire qui va lui accoler des adjectifs, des qualificatifs qui vont lui permettre de s'assumer dans son identité. Et c'est ça aujourd'hui le problème. C'est est-ce que la droite française, telle qu'elle est aujourd'hui, éclatée, elle existe toujours, hein, ce camp conservateur, il est là, il existe, mais est-ce qu'il a la capacité de se nommer lui-même et d'être capable effectivement de créer aussi, lui, cette doctrine qui lui manque, et on le voit justement même après 1945, parce que vous avez évoqué le gaullisme, mais même après 1945, la droite répugne encore une fois à se nommer elle-même, et elle trouve à travers justement le gaullisme qui va se développer, cette espèce d'outil, cet exemple parfait d'objet non identifié à droite, parce que la droite a aussi une histoire problématique dont elle a du mal à se relever face au magistère moral de la gauche qui ne va aller qu'en s'accentuant au fil du XXe siècle. Je pense que ce magistère moral de la gauche est en train largement de s'étioler à travers notamment justement la bien-pensance progressiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette gauche-là, elle dénomme aujourd'hui, parce que pour moi c'est cette gauche-là qui, à travers le mot progressisme, continue à nommer son adversaire. Elle l'appelle populiste, elle l'appelle nationaliste, elle va l'appeler réactionnaire, etc. Mais c'est encore une fois ce camp-là, le camp de la gauche progressiste, qui nomme la droite. Or aujourd'hui, c'est ça la problématique de la droite, c'est qu'elle n'a pas le courage, n'a pas l'audace et n'a pas l'intelligence non plus de se nommer elle-même et de s'identifier d'un point de vue doctrinal.
Ou presque.
Oui, s'identifier elle-même, se nommer elle-même. Alors c'est un travail que fait la droite de la droite, il faut bien le dire. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est sorti du bois cet automne. À gauche, on pourrait dire il y a Bernard Cazeneuve, mais à droite, à la droite de la droite, il y a Marion Maréchal. Écoutez ce qu'elle disait en juin.
Je considère que le Rassemblement National est indispensable à la vie politique, mais je pense que malheureusement il n'est pas suffisant et qu'il faut le dépasser, ou en tout cas il faut permettre qu'il puisse y avoir d'autres voix qui s'expriment à travers d'autres mouvements courants qui puissent demain permettre, je l'espère, un grand, disons, compromis patriotique autour de cette idée de défense de la nation.
Ça, c'était en juin, mais prochainement.
Alors, c'est intéressant parce que, si vous voulez, alors que Marine Le Pen et le Rassemblement National se positionnent un peu dans un en dehors, ni droite ni gauche, Marion Maréchal dit je suis de droite, j'endosse, justement, j'ose, comme disait Barbara Lefebvre, j'ose dire que je suis de droite, et elle va organiser prochainement, donc le 28 septembre,
un rassemblement,
une sorte de rassemblement pour en quelque sorte redonner des idées à la droite, avec des gens quand même tout à fait étranges, parce qu'il y aura, bon, certes, Gilbert Collard, il y aura Charles Becbédé, il y aura Charles Millon, mais il y aura aussi quelqu'un, par exemple, un personnage qui est intéressant dans ce contexte, qui est Éric Zemmour.
Il y aura même Raphaël Glucksmann.
Et Raphaël Glucksmann qui vient...
Raphaël Entoven. Entoven.
Et Aurélien Taché de La République En Marche.
Et Aurélien Taché qui vient aussi. D'accord.
Mais c'est très important parce que la convention de la droite, puisque c'est comme ça qu'elle se dénomme et que les organisateurs ont choisi de le dénommer, a cherché des interlocuteurs, des contradicteurs. C'était pas forcément quelque chose de fermé. Et c'est vrai qu'à part Raphaël Entoven, personne n'a voulu venir parler avec ce camp qui est ce camp qu'on diabolise effectivement depuis quelques temps en le traitant de populiste, de nationaliste, etc. Et c'est intéressant cette captation qu'essaie de faire Marion Maréchal du terme de droite, alors même que la droite qui n'a pas envie, elle, de s'allier à la perspective de Marion Maréchal ni à la perspective de Marine Le Pen, continue d'exister, mais pour l'instant, elle pédale dans le vide, puisqu'encore une fois, elle n'arrive pas à développer cette doctrine. Les Républicains, en élisant demain Christian Jacob à la tête du mouvement, vont contribuer, encore une fois, à valoriser quoi? Le centre-droit. Le centre-droit, il existe. Centre-droit, centre-gauche, ça s'appelle La République En Marche.
Pierre Jacquemin.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où ce qu'on appelle aujourd'hui la République en marche, qui se dit ni de droite ni de gauche, ou et de gauche et de droite selon où on se place, et qui ne s'appelle pas la droite alors qu'elle incarne aujourd'hui la droite, c'est d'ailleurs le grand traumatisme des Républicains. Aujourd'hui, ils ne savent plus vraiment comment exister, sur quelle ligne exister.
Une autre forme de l'UMP, en fait.
Oui, voilà, exactement. Et en fait, la République en marche fait exactement ce pourquoi les Républicains existent. Ils ont deux choix, les Républicains. Soit, effectivement, ils arrivent à construire un discours gaulliste, plus social, ce que ne fait pas Emmanuel Macron, et donc ils essaient d'incarner une droite qui serait une droite plutôt traditionnelle, équilibrée et donc sociale, soit effectivement ils construisent une droite beaucoup plus radicale, et effectivement là, aujourd'hui, une Marion Maréchal existe de manière sur un créneau très libéral, hein, elle est totalement libérale compatible, puisque sont beaucoup des gens et des militants des Républicains. Et puis, évidemment, cette casquette qui, ne lui échappe pas, qui est une casquette très conservatrice, très enfermée dans des frontières, sur la question de l'immigration, évidemment, sur la question de l'islam, ce qui vont être des thèmes des prédilections de cette journée, de cette convention nationale. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est à ça qu'aujourd'hui doit régler la question doit être réglée au sein de la droite. C'est où se situe la droite.
Marion Maréchal est dans un statut bizarre parce que elle a été bannie en quelque sorte des journées du MEDEF il y a quelques jours parce que justement elle sentait un peu le soufre et en même temps quand on voit ce que dit Guillaume Larrivé, membre candidat à la présidence des Républicains, qui dit nous devons arrêter l'immigration de masse. Je n'ai pas dit contrôler, j'ai pas dit réguler, j'ai pas dit maîtriser, j'ai dit arrêter l'immigration de masse. Il est vraiment sur les mêmes positions que le Rassemblement national.
La politique c'est de la géographie, c'est-à-dire ce sont des espaces. Quels sont les espaces qui s'offrent aujourd'hui à la gauche et à la droite? On a vu la gauche, il reste pas grand-chose. Pourquoi il reste pas grand-chose? Parce que justement, ce compromis historique de la libération fait que dans les 30 dernières années, la droite arrivait au pouvoir et disait on va faire la rupture et rien ne se passait, et la gauche disait le changement et rien ne se passait. Et donc les Français ont fait le constat que le slogan de Marine Le Pen avait un sens. C'est-à-dire, s'il y avait un slogan qui avait de la résonance dans l'opinion venant de l'extrême droite, c'est UMPS. Et la traduction propre, politique, de UMPS, c'était ni droite ni gauche. C'est-à-dire que le ni droite ni gauche est la réponse et le pendant de UMPS. C'est-à-dire que les deux se sont appuyés en disant, il y a une catastrophe. Cette catastrophe, c'est-à-dire que tous ces gens-là, de droite et de gauche aujourd'hui, ne font plus avancer le pays. Les Français ont le sentiment que la France est bloquée. Comment on la relance? Donc, Emmanuel Macron a vu que la mer s'ouvrait. Il a très bien vu les études Sevipov, ce que racontait Sevipov depuis 5 ans. Et c'est lui qui l'a mieux compris. Il s'est engouffré là. Il a eu une résonance auprès des Français. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant à la droite? Ben, à la droite, l'espace, il est aussi extrêmement étroit. Donc, l'extrême droite le comprend. Et l'extrême droite a un autre souci. Elle se rend compte qu'à chaque fois, elle arrive en tête au premier tour dans des élections nationales. Mais que simplement, elle n'a pas de ressources derrière. Donc, elle est dans l'obligation de passer une alliance. Et Marine Le Pen, elle, tellement marquée par son histoire, l'histoire de son père et ce côté UMPS, on ne peut pas faire de compromis. Ce qu'a connu 5 étoiles en Italie. En Italie, 5 étoiles, pourquoi il a été obligé d'aller prendre quelqu'un qui faisait 11%? Parce qu'à force de cracher sur tous les autres lui ont dit, mais on va pas faire alliance avec toi. Alors maintenant, les choses ont changé, parce que celui qui est à 11 est passé à 33. Voilà. À 33, monsieur Salvini. Bon. Donc vous êtes dans une problématique française qui est où l'Italie peut éclairer les choses. En tous les cas, il y a un espace. Cet espace, Marion Maréchal Le Pen souhaite le dépasser, c'est-à-dire donner une chance de deuxième tour à la droite, et la droite, à un moment
avec
donné...
Avec des alliances avec voilà.
Et
droite,
vous allez vous retrouver à ce que dit Emmanuel Macron depuis un moment, ça plaît ou ça ne plaît pas, il y aura d'un côté le camp des progressistes, et le reste, alors après on pourra l'appeler le populisme, mais c'est la réalité.
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur Marion Maréchal. Moi je pense qu'elle a pris une longueur d'avance, mais sur beaucoup de plans, et ça on le voit pas encore. Bon, d'abord, il y a sa personnalité. C'est vrai qu'elle est jeune. Hein. On reprend un peu les mêmes schémas qu'Emmanuel Macron. Elle est jeune, elle est neuve. Elle s'est placée en jeune sage. Elle observe toute la vie politique de loin. Elle n'est pas encore dans la folle course électorale. Elle parle avec des intellectuels. Elle rassemble des gens de droite, de gauche pour discuter de quoi? Des idées. Ce que ne font plus Emmanuel Macron. Ce que ne fait plus le Rassemblement National. Parce qu'Emmanuel Macron, à force de gommer la gauche et droite, on ne sait pas quelles sont ses orientations. On a passé une première partie de quinquennat très pro-libérale, très pro-entreprise. On se retrouve là en septembre avec de l'écologie et du social. Donc les les cartes, elles sont très très brouillées du côté de La République En Marche. Rassemblement National, c'est pareil, ils ont surfé sur le mouvement des Gilets jaunes en essayant de rassembler en masse. On ne sait même pas la position sur le PMA de Marine Le Pen. Marion Maréchal, elle est claire, j'irai manifester PMA. Elle est on ne peut plus claire sur les idées. Et je pense qu'elle a pris cette longueur d'avance en comprenant que ce gommage droite-gauche, il va pas durer et que les gens, ils demandent du social, ils demandent de l'écologie, ils demandent une prise de position très conservateur du côté de la droite. Elle est en train de le construire, mais d'une manière dans le dur. Mais ça... ça prend du temps, elle voit très loin, alors que la plupart des partis politiques qui sont en tête, l'AREM et Rassemblement National, ils naviguent à vue pour le moment.
Barbara Lefebvre.
Juste un point, je voudrais relever ce que vous disiez, Claude Pasternak, tout à l'heure, parce que vous avez dit Emmanuel Macron, c'est ni gauche ni droite. C'est amusant parce que c'était quand même ça le fond, par exemple, de l'action française au début du XXe siècle, c'était ni droite ni gauche.
Laissez-moi
juste poser cette question. Oui, mais ni droite ni gauche. Bah oui, mais De Gaulle comme Mitterrand, je crois, étaient des grands lecteurs de Maurras. Donc, effectivement, l'extrême droite du début du XXe siècle, c'est ni droite ni gauche. Pour moi, Emmanuel Macron n'a jamais dit ni droite ni gauche. Il a dit et droite et gauche.
Non.
C'est pas pareil. Bah oui, mais alors le problème, non, c'est bien là. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron est aussi un lecteur de Maurras, on ne le savait pas et on vient de l'apprendre.
Juste une question par rapport à ce personnage qui apparaît aussi dans la course. Éric Zemmour, vous en pensez quoi, Pierre Jacquemin ?
J'en pense qu'il fait beaucoup de mal à la vie politique et à la vie même des idées. La vie
et pour autant, il est plébiscité par le monde politique. Une partie du monde politique.
Bien sûr, on lui court après parce qu'il a sans doute un talent oratoire et un talent aussi médiatique. Du coup, je pense que en plus, l'image que l'on fait passer de lui comme étant un intellectuel, un journaliste, et que donc, du coup, il aurait une part de vérité, une objectivité à dire qu'aujourd'hui, il y a une immigration massive qui vient remplacer ce que sont des Français. Ça fait partie de la crédibilisation du discours d'un Éric Zemmour. Et donc, je pense qu'il fait beaucoup de mal. Je crois que c'est Gérard Noiriel qui a trouvé une phrase qui a dit un mot sur Éric Zemmour, qu'il était une imposture intellectuelle, et je pense que c'est exactement ça pour moi. Éric Zemmour est une imposture intellectuelle, il fait de la politique, il faut qu'il assume. C'est insupportable à un moment donné.
J'assume
d'être un journaliste de gauche et j'assume mes convictions, mais c'est des gens qui se cachent derrière une objectivité, derrière une profession.
Alors là, vous n'avez ni lu ni écouté Éric Zemmour. Éric Zemmour, justement.
Là, aujourd'hui, il ne fait plus de journalisme, il fait de la politique.
Mais il a toujours dit qu'il faisait de la politique, que pour lui, faire de l'histoire, même il n'est pas historien, mais écrire des livres d'histoire, c'est faire de la politique. Faire du journalisme, c'est faire de la politique. Et alors là, Éric Zemmour n'a jamais nié faire de la politique. Il fait de la politique pas au sens partisan, c'est ce qu'il dit, mais il fait de la politique, il n'a jamais prétendu être d'une quelconque objectivité. C'est en ça d'ailleurs que c'est très intéressant les propos de Gérard Noiriel, parce que justement, Gérard Noiriel essaie de présenter l'historien comme un espèce de personnage dans une pureté scientifique, dans sa tour d'ivoire. Je suis navrée de rappeler à Gérard Noiriel, qui doit le savoir encore mieux que moi, et qu'il a participé à un ouvrage majeur qui s'appelle Les lieux de mémoire, qui sont justement l'expression d'à quel point l'histoire est au service aussi des usages politiques qu'on en fait. Donc, prétendre que les historiens sont seuls à même de pouvoir s'exprimer sur des questions historique comme il fait la leçon aujourd'hui à Éric Zemmour. Si Éric Zemmour a envie d'écrire des livres qui se vendent effectivement beaucoup plus que certains livres d'historiens, c'est peut-être aussi un problème de jalousie éditoriale.
Bon, on va passer, après le clivage droite-gauche, on va passer peut-être à un autre clivage qui s'est révélé au cours de ces dernières années.
Call me, I'll come running. You can call me anytime. essential that I feel you. But it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words. And I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve. 'Cause I sure don't have the time.
Help Me Stranger, un extrait de Help Us Stranger, le dernier album de The Raconteurs. Ça, ça vous plaît, ouais, ça vous plaît, Christophe Bourseiller. Programmation, Vivre Ensemble, ça vous plaît un peu moins, ça?
Oui, c'est
de Jean-Baptiste Audibert. Alors, si gauche et droite tentent de faire de la résistance, il y a quand même de nouveaux clivages qu'on a vu apparaître, des clivages de société, en haut, en bas, puis des clivages transversaux. Islam, nature, Europe. On en parle avec Barbara Lefebvre, avec Claude Posternak, avec Émilie Zapalski et avec Pierre Jacquemin. Vous reprenez la main, Christophe?
Vous avez raison, Laurent, mais ça, c'est ce que dit Jérôme Sainte-Marie. Il dit, le clivage entre la gauche et la droite est en train d'être remplacé par un clivage entre la société d'en haut et la société d'en bas. C'est... Sauf que dans cette idée-là, on a l'impression que ce sont deux sociétés de même taille, en quelque sorte.
Non, mais je reviens à Glucksmann. C'est l'erreur de la gauche. C'est-à-dire que, normalement, en politique, je parlais de géographie, mais vous avez aussi des effets miroirs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se reconnaître dans la personne qui va vous représenter. Glucksmann, c'est justement cette gauche qui pose un problème à la gauche historique, à la gauche sociale, à la gauche qui dit écoutez, mettez un peu de côté les problèmes de société, parlez d'abord du SMIC, parler des répartitions des richesses. Et c'est pas cette gauche-là qui revient fédérer. Et de la même façon, il y a une erreur aussi là, historique, politique grave. Lorsque vous avez un assemblage qui va de la droite à la gauche et qui dit on va faire des référendums, quel est le premier sujet qu'on prend? On devrait dire, bah écoutez, on va demander que aujourd'hui on élargit la participation et à l'ensemble des Français, qu'au lieu que ce soit 5 millions de Français qui touchent une partie du bénéfice des entreprises, on l'élargit aux 25 millions de salariés. Ça, je comprendrais qu'il y ait un référendum là-dessus. On fait un truc sur ADP, mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est profondément de gauche dise « Mais de quoi on parle ADP ?» Je comprends pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet ADP. Simplement, c'est des erreurs d'effet miroir. Glucksmann a une erreur. Cazeneuve est une erreur parce qu'on ne peut pas se projeter. De la même façon, vous prenez pas comme premier élément quelque chose qui est aussi loin que le social alors que vous voulez vous reconstituer sur le social.
Pierre Jacquemin, le clivage sociétal.
Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que d'abord, c'est le grand rêve de l'extrême droite que de voir abandonner justement le clivage droite-gauche. Et le fait nouveau aujourd'hui, c'est qu'une partie, de voir la quasi-entièreté maintenant du paysage politique, a rejoint cette idée du dualisme qu'il faudrait désormais dépasser. Et je pense qu'on a des exemples à l'échelle internationale, notamment je pense au Brésil et à l'Italie, qui ont vu naître des mouvements comme on connaît aujourd'hui en France, le mouvement des Gilets jaunes, qui sont nés de critiques fiscales, hein, des critiques de la fiscalité. C'était le cas au Brésil. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mouvements sociaux, que ce soit au Brésil ou en Italie, avec le mouvement des Forconi, qui était aussi une critique sociale de la fiscalité. Il y avait deux critiques. Il y avait un, l'absence de reconnaissance des parlementaires et donc de la représentativité nationale. C'était la première critique. Ces parlementaires ne nous représentent pas, ce que disent les Gilets jaunes dans les partis politiques, au Parlement ou même dans les syndicats. Et la deuxième chose qu'il a raconté, c'était de dire il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne jamais la bataille ne donne jamais du gain à la gauche. C'est la droite et l'extrême droite qui l'emporte. C'est le cas au Brésil et c'est le cas aujourd'hui en Italie. Donc quand Emmanuel Macron, par exemple, joue sur ce discours qui est de dire nous, il y a plus de droite, il y a plus de gauche, il y a que la politique du bon sens, parce que c'est maintenant c'est ça aujourd'hui.
C'est
on fait
un discours populiste.
On fait de la politique de façon. Bon sens. Exactement. Mmh. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est le premier des populistes. D'ailleurs, il avait même dit une fois si être populiste, c'est faire ce que je fais, je veux bien être un populiste. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a le cas Macron qui nous dit qu'il y a plus de droite, il y a plus de gauche. On fait de la politique de bon sens. Il faut être écologiste, mais derrière, on voit bien que les mesures fiscales ne sont pas nécessairement très écologistes. Mais si on prend le bilan de l'Union européenne, c'est pareil. On voit bien que les socialistes et la droite ont gouverné ensemble sur des mesures qui faisaient consensus. Or, aujourd'hui, ce consensus, c'est tout ce qu'il faudrait détruire. Il faut remettre du conflit en politique. Il faut remettre de la conflictualité. C'est sain, le conflit en politique.
Mais le néolibéralisme n'est pas là pour être conflictuel.
Et ce qui a conduit aujourd'hui l'échec de l'Union européenne, c'est cette politique du consensus. Et qu'est-ce qui émerge derrière ça? C'est l'extrême droite qui monte en Allemagne, qui monte en Italie, qui monte en Autriche et qui monte aussi en France.
Le fait que
Marion Maréchal ait été invitée aux universités du MEDEF est très symptomatique. Ça veut dire qu'on a intégré les entreprises, le milieu de l'entreprise, ont intégré que Marion Maréchal Le Pen pouvait prendre le pouvoir demain et que donc, du coup, comme elle peut prendre le pouvoir, il faut commencer à nouer des liens et à tisser des passerelles avec l'extrême droite qui, possiblement, peut prendre le pouvoir demain et c'est bien ça le problème.
J'ai l'impression qu'on oublie quand même un paramètre qui peut redistribuer vraiment les cartes au niveau politique, c'est l'écologie. On en parle de ci, de là, on en parle comme une étiquette qu'on mettrait sur un parti politique ou un autre. Hein, tout le monde le fait depuis les élections européennes. Hein, tout le monde va attraper un peu de vert, un peu de ci, un peu de ça, mais sans réellement aller dans des actes ou dans des propositions très concrètes. Tout à l'heure, on parlait de l'écologie de gauche ou de droite. Je pense que quand on va passer à l'écologie réellement industrielle, l'économie circulaire, une écologie qui soit intégrée par les grands groupes, ça va créer des difficultés et ça va recréer un dualisme. Parce qu'il va y avoir des choix à faire. On en a parlé au moment des Gilets jaunes. Taxe carburant, pas taxe carburant. Donc ça voulait dire écologie ou pas écologie. On va être face à des choix qui vont être beaucoup plus profonds que les choix qu'on nous propose à l'heure actuelle d'effacer les frontières droite-gauche. On va être sur, si on veut faire de l'écologie, eh ben on va faire des choix. On va se priver de ci, de ça. On va redéfinir des politiques économiques. Et ça va recréer du conflit. Vous serez contente, Barbara, à mon avis. Parce que on va pas pouvoir faire de l'écologie sans investir, sans payer. Donc ça veut dire d'autres choses. Il va y avoir des décideurs qui vont aller vers du vert plutôt taxe, d'autres vers du vert investissement entreprise, donc beaucoup plus économique, donc on dirait plus de droite, c'est là que ça va recréer des frontières et des fractures, des clivages.
C'est bien ce que l'on dit, l'écologie va enfin recréer des conflits.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Parce que c'est nécessaire, les conflits. Par exemple, la place de la musique, la place qu'a pris la musique aujourd'hui dans cette émission, c'est conflictuel.
Mais non, pas du tout. Non. Marion Guilbeault. Hein.
En tout cas, je sais pas si...
En live.
Il y a certainement des conflits entre eux, hein, quand
ils
on est un groupe de rock.
De gauche, le groupe,
bah, je sais
là,
pas, on va leur poser la question tout à l'heure. Christophe, en tout cas, il y a certainement des conflits quand on est un groupe de rock, ça manque pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la tension dans leur musique. Last Train, c'est qui? C'est quatre garçons dans le vent, plutôt dans la bourrasque, tellement leur rock est puissant. Ces quatre musiciens, ils viennent du front de l'Est, ils se sont rencontrés au collège en Alsace. Ils se sont construits tout seuls sur la route. 300 concerts en 3 ans. Une histoire qui a commencé dans les bars et qui se termine en première partie de Muse, de Franz Ferdinand, mais aussi de Johnny Hallyday, avec les plus gros festivals français et aussi des tournées aux États-Unis, en Asie. Une fois, on a pris on a pris l'avion ensemble pour aller à Montréal.
Taxe carbone, je ne vous félicite pas.
Ah bah non.
On prend le train maintenant.
Eux, ils n'arrêtent pas. La taxe carbone, elle est terrible aussi. Et voilà. Donc, on avait super craqué sur les chiens fous de Last Train, c'était il y a 2 ans, avec un rock aussi brûlant qu'efficace.
Je comprends mieux pourquoi Didier Varro est venu les saluer tout
Mais
à
oui,
l'heure,
en début d'émission. On les adore, Last Train. Cold Fever, cet extrait de leur premier album, Weathering. Alors, Last Train n'attend rien ni personne. Ils sont acteurs de leur propre carrière. Ils ont créé un label. Ils gèrent leur agence de booking. Ils réalisent leurs clips. Ils sont indépendants. Et à l'heure où les maisons de disques ne jurent que par les sons urbains, eh bien, ils ont bien raison. Last Train trace sa route. Derrière eux, on entend Led Zepp et tout le rock énervé des années 90. C'est souvent hypnotique, écorché. C'est toujours sincère. Et sur The Big Picture, c'est le titre de leur nouvel album qui sort demain, Last Train a fait la preuve qu'on peut marier l'art scène et introspection nostalgique avec des montagnes russes soniques comme on les aime. Et juste avant qu'ils ne jouent, j'ai une petite question à leur poser. J'ai entendu dire, Last Train, qu'en plus de votre album, de vos concerts, de votre label, vous alliez organiser votre propre festival. C'est où et c'est quand, Jean-Noël le chanteur?
Bonjour, donc du coup le festival s'appelle La Messe de Minuit, il aura effectivement lieu à Lyon, là où on habite depuis quelques années.
Vous avez déménagé alors?
Et ouais, ça aura lieu du 19 au 21 septembre dans différentes salles lyonnaises, du Transborder à l'Épicerie Moderne jusqu'au Périscope.
Vous savez que Lyon c'est le nouveau Berlin?
Ah bon, je ne savais pas, bah, non, mais il va falloir qu'on aille faire un tour. Et il y aura qui à ce festival?
Bah, du coup le pari c'était de faire que des groupes de rock qui jouent live, c'est-à-dire sans ordi sur scène, sans sample, sans filet en quelque sorte, que des artistes qui font de la prise de risque scénique, et on y retrouve des internationaux comme Fatoued Family, comme Yak, mais aussi des Français. On voulait vraiment mettre en avant les groupes de rock français comme Lizzy Strata, Decibel, Psychotic Monks ou Bandy par exemple.
Super, ça donne envie ce programme. Et ben là on vous écoute tout de suite sur un nouveau titre de cet album The Big Picture qui sort demain, c'est à vous Last Train.
Could I? I've been so confused. I tried so hard to tell.
Last Train, The Idea of Someone, s'extrait de leur nouvel album The Big Picture qui sort demain. Super. Il y avait Jean-Noël.
Vous avez fait plaisir à Christophe Bourset.
Ah,
il avait le poing levé.
Oui, je l'ai vu, il avait le vif et tout. Hein, c'était chouette. Alors, il y avait Jean-Noël, chant à la guitare, Julien à la guitare, Timothée à la basse, Antoine à la batterie. La première date, ça va être avec leur festival, la messe de minuit à Lyon. Ce sera le 19 septembre. Et après, ils partent. C'est plus qu'une tournée, c'est un marathon. Saint-Lô, Lorient, Lille, Sannois, Rennes, Nantes, Montpellier, Bordeaux, partout en France. Au Trianon, à Paris, ce sera le 6 novembre. Et je vous encourage vraiment à écouter l'album. Là, ils nous ont fait une petite version édite.
Ouais, non, mais c'est super.
Le titre dure un peu plus longtemps. Il y a des morceaux de 10 minutes sur l'album. C'est vraiment, c'est génial. Ça change tout. Voilà. La prise de son est assurée par Alexandre Chenet, Serge Viguier et Kevin Pelot. Merci beaucoup à eux.
Merci les garçons. Merci à nos invités. Merci Claude Posternak, Émilie Zapalski, Pierre Jacquemin. On vous retrouve dans la revue Regard. Barbara Lefebvre, je rappelle, c'est ça la France. Qu'a-t-on fait pour mériter ça chez Albin Michel? Car oui, c'était le NRV. Première partie, on va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite. Mais lundi au programme du NRV, ce sera quoi?
Attends deux secondes, hein, je vérifie si j'ai bien le sifflet dans mon gilet.
Ils ne lâchent rien, les gilets jaunes toujours en acte, toujours en marche, non, ça m'étonnerait. Ingrid Levavasseur sera d'ailleurs l'une de nos invitées, Christophe Bourseiller.
Bah oui.
Je vous invite dès à présent à poser vos questions, interrogations ou analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. On vous attend, on vous entend. Allez, je redonne le numéro 01 56 40 37 37 sur les gilets jaunes. En live, Marion, lundi.
Ça va être fantastique lundi, c'est la pop psychédélique des Turcs d'Altin Gun.
C'est une bonne nouvelle, le nouveau rendez-vous, vous le savez, hein, c'est deux fois plus de chance de nous écouter dès 18h avant même que ça passe à l'antenne sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit parce qu'on passe à la radio comme tout le monde. À la réalisation, Marion Lelay, à la programmation, à la préparation, Virginie Rouzic. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal avec Paul Weller, le pape du rock anglais, le roi des mods, le parrain de la Britpop, rien que ça. Quelle en soirée. Version Black Session, et oui, c'est au programme du NRV la suite, France Inter plus de musique. À tout de suite.
Rendez-vous.